Vous avez connu, vous avez pas connu la navigation, là, la navigation sur la Dordogne. La navigation sur la Dordogne.
Bien sûr, je la connais. Ah, mais le problème niveau. Moi, le problème de Dordogne, c'est mon domaine.
C'est ça.
J'ai connu la navigation sur la Dordogne. Les gabariers. Parce que j'ai connu les gabariers. D'abord, parce que quand la Dordogne, à l'automne, ou au printemps, mais surtout au printemps, avait des pluies suffisantes, que le niveau était assez important, il y avait un niveau qui convenait pour la navigation et les gabares allaient apporter dans la région bordelaise, à Bordeaux ou dans les environs, on allait porter les bois d'Auvergne, car la navigation. Je parle en 1850, si vous voulez. La navigation, même maritime, comportait beaucoup de bateaux en bois. Et alors, les bois favorables à la navigation pour Bordeaux venaient d'ici, les bois européens. Il y avait les bois qui venaient des colonies, d'autres choses. Et alors, il y avait le transport de bois. Il y avait aussi le transport de bois de chauffage. Il y avait le transport des piquets pour les vignes du Bordelais, les échalas, qui étaient un mandrin dans la grosseur du bois, fendu en quatre, 1,70 m de hauteur, à pointer. On vendait les paquets, les échalas, on les vendait par paquet de 20, et c'était exporté à Bordeaux. On exportait même des pots parce que dans le Ségala, il y avait beaucoup d'élevage. La boucherie fait qu'on tue beaucoup d'animaux là, on les écorchait, les pots étaient salés pour ne pas pourrir et elles partaient par la navigation pour aller dans la basse vallée ou à Bordeaux pour la tannerie, pour être tanné. On portait ça. Et on descendait aussi certaines choses qui pouvaient être transformées sans trop de difficulté. Quelques fruits, ça pouvait être quelques pommes, mais il n'y avait pas de grandes plantations fruitières, ça ne marchait pas. Mais par contre, quelque chose qui n'était qu'un petit détail, mais que j'ai connu, c'est que tout notre coche du Haut-Quercy, ici, avait des bois de chauffage et des bois de genévrier qui poussaient en touffe. Ces bois de genévrier fournissaient des graines, la graine de genévrier, et ces bois de genévrier faisaient que des gauches, des villages de Calenac et d'autres villages, ces gauches-là allaient. Au lieu d'aller à l'école, c'était plus intéressant d'aller jouer là, aller ramasser des graines de genièvre. Et ces graines de genièvre partaient avec les navigateurs, on emportait dans des sacs ou dans des cartons, je ne sais plus très bien, mais en détail, j'en ai vu quelques-uns, mais je ne me souviens pas des détails, on emportait des graines de genièvre qui partaient à Bordeaux et qui, de Bordeaux, filaient en Angleterre. Et le mot de Genièvre avait servi à désigner une eau-de-vie que l'on vendait comme Genièvre dans le nord de la France, en Belgique. Ça partait en Belgique, en Angleterre, ça c'était le cas. Et oui. Et alors, ces navigateurs, c'était d'abord un grand bateau, une grande barque qui était fabriquée en général à Spontour.
C'est ça.
Bon, là, il y avait les spécialistes qui fabriquaient la chose. Dans la région de Spontour, ou un peu plus bas, en Argentat, il y avait des entrepreneurs de transport. L'entrepreneur de transport était un professionnel qui avait avec lui au moins deux gaillards solides et jeunes, lui patron, à trois, il pouvait mener une barque. Parce qu'il fallait non seulement la rame, mais c'était le courant, on n'avait pas de moteur. Alors, il fallait un bonhomme avec une grande barre solide et une petite planche. Si le bateau allait contre contre un talus ou autre, il fallait essayer de quelque chose. Et alors là, il y avait ces trois gaillards qui le menaient, et on faisait un parcours de la journée. Ce parcours de la journée était souvent un parcours fait le matin en partant assez tôt. On faisait une quinzaine de kilomètres dans la matinée, ou 20. On arrêtait à quelques points pour manger. Quelquefois, on mangeait au lest sur le bateau et le soir, on allait coucher. De telle sorte que ceux qui partaient de Spontour ou d'Argenta venaient assez souvent coucher à Calennac. Et là, il y avait à Calennac des auberges, non seulement pour les paysans, mais qui travaillaient avec ces gens-là. Ces gens venaient, on mangeait, bien sûr, ils venaient. D'abord, il n'y avait pas de vin en Auvergne. Alors là, on avait du vin. Bon, on buvait un bon coup. Ça faisait partie de la vie sociale. Ils arrivaient, ils avaient leurs vieilles chansons. Ah. Ils arrivaient. Alors, quand il y avait le train de Gabarre, car on appelait ça un train, deux ou trois bateaux. Un bateau seul, ça ne passait pas. Il y avait quand même assistance entre eux, et ça formait une équipe. Et alors là, ils arrivaient, on abordait à Calennac, non pas dans le bourg, parce qu'on ne pouvait pas venir au bourg. La Dordogne ne passait pas là, il y avait une nappe d'eau au bourg de Calennac, mais à 150 mètres, après avoir passé une île, il y a la grande Dordogne. Ces bateaux étaient arrêtés avant d'arriver à Calennac, et ces gens-là venaient manger au restaurant. Et venaient manger au restaurant. Et je me souviens, il y avait un restaurant chez nous, le patron et sa femme faisaient un restaurant dans le village, mais surtout recevaient des gens. Là, le patron était un pêcheur professionnel. Il avait un permis de pêche, une barque, etc. Il vendait le poisson pour alimenter les gens du village ou des gens qui venaient en acheter. Et sa femme, faisant bistrot, évidemment, les navigateurs, eux, n'avaient pas besoin de tant de poissons que ça. Mais des gens qui avaient fait un parcours et qui étaient bien affamés et qui étaient des paysans ne mangeant du poisson que parce qu'ils avaient eu lors du parcours, eh bien, on mangeait une bonne truite sans manger l'affaire. Et ils buvaient un bon coup. Et je me souviens, étant gosse, j'avais un copain, le Fernand, qui était de mon âge, fils du bistrot. J'habitais là. Oh, il y avait 110 ou 115 mètres de chez moi au bistrot. Et c'était le meilleur restaurant. S'il y avait ça, Fernand, le soir, arrivé, les gabariers sont là. Alors, je quittais la maison, on allait voir les gabariers. Ces gabariers, alors nous allions au bord de l'eau voir ces bateaux, voir se dégager ça, et nous y allions quelquefois, le soir, quand ils étaient à table. Et je me souviens avoir vu ces gabariers, ces jeunes, qui étaient là, qui avaient bu un bon coup, ils chantaient en patois, « Lo voli lo Mariano, lo voli mai lo urai, lo voli lo Mariano, lo voli mai lo urai. » Et alors ils chantaient leurs chansons, et c'était ça, c'était de la joie, c'était des joyeux vivants, ces types-là, parce que c'était la jeunesse, comprenez-vous. Et il y avait ça, et non seulement ils avaient un métier et un salaire, mais ils avaient aussi la joie de circuler, d'aller ailleurs, d'avoir des contacts ailleurs et pour un très grand nombre, d'avoir quelquefois une tentation d'amourette qui venait Et j'ai connu, bien sûr, le long de la Dordogne, puisqu'on parle de Dordogne, des accidents qui se produisaient au moment des parcours, il y avait un mort noyé. Parce que ces gens-là n'étaient pas des bons nageurs. Non, pas du tout, c'était des paysans qui poussaient devant la barque, mais s'il y en avait quelques-uns qui savaient pas nager, mais on n'apprend pas à nager dans les ruisseaux de ces gars-là. Et alors, il y avait, le long de la Dordogne, de temps en temps, un décès. Il y avait, le long de la Dordogne aussi, un garçon qui, pour une raison quelconque, quittait sa barque et essayait d'en trouver un autre pour le remplacer. Après avoir fait une journée ou deux journées de déplacement, et il y avait celui qui, en faisant connaissance d'une fille du coin, essayait de faire une connaissance qui durerait. Et quand il revenait, quand il remontait de Bordeaux, il disait « Jésus ». Et alors, il y avait l'expression de Batois, « Et d'où déjà que le Rochelle ?» Et on disait « Des novales des pays bifou, en patois. » Cette Rochelle, ça veut dire cette blonde. Dans aval, d'après ce, les choses noires, les fruits noirs. Et oui, et il y avait les mariages. De telle sorte que, à Crèche, ici, tout le long, à Carennac, il y avait de ces gens, de ces gars-là, qui s'étaient mariés avec une fille de paysan d'ici. De telle sorte qu'il y a eu un lien de parenté qui s'était établi dans certaines familles le long de la rivière. Il y a eu aussi le lien de langage, le patois de Saint-Céré et de Puivrun était le même que le patois de la région de Bordeaux. Alors que entre le Coche de Mierges et Veyrac de l'autre côté de la Dordogne, le patois n'était pas le même. Il y a eu, la Dordogne a été un lien là, et on le retrouve partout, dans tous les vieux papiers, dans tout ça. Quand je me souviens avoir fouillé souvent tous les vieux papiers, parce que la vieille paparasserie, moi, c'était mon affaire. J'ai été secrétaire de mairie, j'ai reçu de l'histoire, un de mes fils avait fait pareil, avait fait un ouvrage. Et alors là, la Dordogne faisait un lien. Et ce lien sur la Dordogne était un lien d'habitude, de mariage, de transport qui se faisait. Et il y avait ce couloir qui maintenait depuis la montagne jusqu'à la région bordelaise, ce lien, alors que ce lien était coupé en travers de la vallée à 7 ou 8 km de chaque côté. Oui, cette navigation maintenait ça. Et oui, et il y avait une ressource. C'est que dans tous les villages qui bordaient la Dordogne, il y avait au moins deux ou trois pêcheurs, deux professionnels de l'agriculture, mais qui n'étaient pas des agriculteurs réels, ils n'avaient que très peu de terrain, pas grand-chose, etc., mais qui avaient une barque, allaient à la pêche, et l'organisation légale faisait que la Dordogne était partagée en lots de location, et ces lots, il y avait ce qu'on appelait le fermier général, celui qui était allé tous les 4 ans au chef-lieu d'arrondissement prendre aux enchères 4 km ou 5 d'un lot et qui répartissait en permis de pêche ce lot à 5 ou 6 personnes, qui le plus. Et alors là, la Dordogne se trouvait d'être là un réservoir alimentaire. Plus qu'on ne pense, Parce que elle avait primitivement, elle n'avait que les moulins, avait les petites chaussées de moulins qui étaient une sorte de mur, si vous voulez, un barrage, fait dans la rivière, non pas en travers, parce qu'en travers les inondations auraient tout renversé, mais en biais, à 45 degrés. Si la Dordogne avait, mettons, 80 mètres de large, à peu près, à un endroit, on partait d'un bout, on allait la traverser, mais au lieu d'aller en face, on allait à 50 ou 60 mètres au plus haut. On la prenait en biais. Le courant venant en biais ne renversait pas facilement. Et en même temps, il amenait l'eau vers un moulin. C'était le petit barrage. Et en termes officiels, si on voulait faire un barrage pour un moulin, il fallait une autorisation. Et là, l'autorisation faisait qu'on ne pouvait pas dépasser le barrage de plus d'une toise, 1,80 m. Mais à partir du fond, 1,80 m, ça retenait de l'eau, un réservoir d'eau important. Comme la Dordogne n'était pas très rapide, sauf un peu plus dans les endroits où on faisait un moulin, la chaussée faisait une nappe d'eau de au moins 150 mètres ou 200 mètres de bonne retenue, plus profonde, etc. Et alimentée vers l'eau, vers un moulin qui, elle, était... Et alors, tout le long de la Dordogne, il y avait les moulins qui permettaient d'écraser le grain des environs et... On n'avait pas de moulins avant chez nous. On avait les moulins à eau, bien sûr. De telle sorte que le meunier était un individu qui avait un ouvrier avec lui, qui partait le matin, allait à la campagne à 2 ou 3 ou 5 ou 6 kilomètres, faire sa tournée des paysans, porter une charrette de blé et le lendemain, ou surlendemain, ou il y avait la tournée, il allait ramener la farine. Alors là, on concassait le grain. Et c'est parce que on avait réussi depuis des siècles à mettre au point ce système d'utilisation de l'eau que dès qu'il y a eu des usines qui permettaient de faire marcher des turbines, on a mis des turbines au lieu d'avoir les anciennes pelles qui tournaient. La Dordogne avait reçu cette chose-là. Et il y avait quelque chose. C'est qu'à l'époque, le paysage était boisé parce que, d'abord, il fallait beaucoup de bois pour consommer et pour se chauffer. En campagne, on n'achetait pas de charbon, on se chauffait avec du bois. Il y avait tous les bords de la rivière avaient des grands bois de coupe. On ne coupait pas les grands bois parce qu'ils entretenaient les terres, mais on les élaguait. On montait là, on coupait les branches, on faisait des fagots, etc. On les élaguait. Et là, la Dordogne, avec ses bois, là, était une zone, je dis, d'aménagement des températures, etc. La Dordogne était un élément de modification du climat. Il y avait la période des froids d'hiver avec les brumes, il y avait le rafraîchissement pendant l'été, il y avait la vallée de la Dordogne elle-même, surtout sur le flanc de la rive droite, sur la rive droite, le coteau était tourné vers le midi, c'est là qu'on allait trouver les meilleures vignes, et même des vignes de cru. Ça commençait un peu dans le département de la Corrèze, mais ça a commencé jusque dans le Lot. Dès qu'on arrivait au Lot, il y a les vignes d'ici qui ont même des crus classés encore déjà. Oui, et alors on arrivait là, et alors en descendant vers Bordeaux, c'était la série des crus, les flammes de la Dordogne étaient un élément de climat favorable et le coteau. Le coteau avait des terrains en pente qui étaient des terrains de décomposition de roches argileuses, des terres fortes, autrement dit des terres argileuses qui étaient ici sur le coteau favorables à la vigne et qui, elles, n'étaient pas détrempées et enlevées par le ruissellement. Alors, on passe des vignes qui étaient dans les coteaux argilo-calcaires que nous avons ici, un peu partout, qu'on trouve, à Veyrac, à Britagne, en descendant, et au fur et à mesure qu'on descend vers Bordeaux, cet aspect viticole s'améliore, s'augmente, jusqu'au jour où on tombe dans des véritables vignobles. Bon. Elle avait autre chose. Elle a autre chose. Puisqu'on parle de la Dordogne. Parce que la Dordogne, pour moi, c'est pas une nouveauté, c'est une... ça fait partie de ma vie.
C'est ça.
Bon, elle avait quelque chose, c'est qu'elle a porté dans l'ensemble un lien social, et un lien d'amont en aval qui s'est produit avec les riverains qui se trouvaient là. Parce qu'il y avait un échange de culture, un peu avec le patois d'un endroit à l'autre, il y avait un échange de production. Celui qui avait fabriqué quelques barriques de vin sur deux coteaux vendait du vin à celui qui était dans la basse vallée. Bon, celui qui avait acheté des agnelles, des jeunes brebis à Grama sur le Cos, les prenait à l'automne pour les engraisser un peu et les vendre de grâce après l'hiver. Alors, il y avait une culture qui a permis, entre le bas Limousin, la région Meissac, le bas Limousin, et le nord du Quercy, un contact à la fois culturel et à la fois d'assistante économique. L'un aidait à l'autre à vivre. Et alors, on allait acheter des bœufs ou vaches limousins ou de Salers et on leur cédait les agnelles ou des agneaux venus du Cos. Oui, et alors nous avions ça, c'est-à-dire que un grand cours d'eau, la Dordogne était un grand cours d'eau, est un élément économique pour l'ensemble de la zone que le cours d'eau traverse.
Ça fait.
Eh oui. Et alors elle avait sa richesse, son climat, ses habitudes, et elle a eu aussi le fait que tout le long de la Dordogne, il y a eu, à cause de cette richesse et de ce que ça faisait, des gens de haute noblesse qui vivaient ailleurs, qui vivaient à Paris, qui vivaient dans les hautes administrations royales ou d'autres, qui possédaient d'immenses terrains, qui avaient des gens pour travailler. Il y avait leur construction et nous avons tout le long de la Dordogne, en allant, des châteaux, soit dans les villages, soit en bordure, soit sur les crêtes, il y a le château tout le long. C'est une chose qui est tout à fait simple, normale, qu'on ne trouve pas dans un autre voyage fait au hasard en ligne droite. Et je me souviens de ça parce que personnellement, je ne pouvais pas être né au bord de la Dordogne sans y avoir pataugé. J'ai pataugé dans la Dordogne dès que j'ai su marcher de chez nous à la Dordogne, il y avait 250 mètres, à peu près. Dès que j'ai pu les faire, j'ai suivi ma mère qui avait la brouette, aller laver le linge. Et moi, comme elle me faisait suivre l'été, j'ai pataugé dans l'eau. J'ai pataugé dans l'eau, je suis tombé le cul dans la Dordogne, et j'y ai pataugé, et j'y ai pêché. Et j'ai commencé à pêcher à la Dordogne avec un mouchoir.
Ah bon?
Avec un mouchoir.
Ah oui.
Ma mère avait du linge, La Dordogne, j'allais à un endroit pas très profond, le chat des pêcheurs d'eau, si c'était pas l'hiver, c'était l'été. Je prenais un mouchoir, je le mettais au fond, bien comme il faut. Dès qu'il était là, un instant après, arrivaient les petits poissons. Parce que je le mettais en aval de ma mère secouant l'eau, les petits poissons arrivaient, ils attrapaient toujours quelque chose. Et alors là, prenez le mouchoir et délicatement, je le levais de côté, puis deux autres. Puis, et quand j'avais réussi un peu, je le soulevais. Et je rentrais chez moi avec une boîte vide contenant deux ou trois petits bouts de poisson et un peu d'eau. Et je rentrais de chez moi quand tranquille. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, eh bien, quand j'ai été plus grand, et un voisin m'avait donné un bambou et je prenais les goujons. Quand ma mère allait, à l'âge de 6 ans ou 7 ans, si c'était pendant les vacances, elle prenait la brouette, moi je prenais la ligne avec des vers de terre. Et quand elle avait fini de laver et que nous rentrions, eh bien si c'était l'été, je portais un plat de poisson pour souper. Prendre 15 ou 20 goujons n'était pas grand, c'était pas difficile. Et oui, et j'ai été pêché, j'ai aimé la pêche à la ligne, j'ai aimé ça parce que la pêche c'était le contact physique avec l'eau. Ce contact physique avec l'eau, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, il y avait ça. Si j'ai tombé, si j'ai été mouillé, tant pis. Et là, j'ai appris les divers systèmes de pêche pour les espèces variées de poissons. Autrement dit, j'ai pêché depuis les petits vairons avec le mouchoir, les goujons de cette taille à la ligne avec le flotteur petit vin, et les autres poissons à la mouche artificielle, les poissons de surface, et les gros poissons, carpes ou brochets, avec du matériel de ligne, etc. Je n'ai pas eu d'engin de pêche autrement, j'ai pêché comme il faut. Mais quand je suis venu à Florac, ici, eh bien, il me fallait, j'avais quitté mon village, et je venais à Florac, j'ai demandé le poste parce qu'il était au bord de l'eau, parce qu'il était près de ma famille, qui était à Carena, j'étais à 8 km. Bon, alors, au bord de l'eau, c'était facile. Pour avoir la possibilité là, j'étais à 150 mètres, à 200 mètres de la Dordogne. J'étais là, il fallait un bateau. Alors le seul moyen pour un bricoleur qui s'est travaillé, c'était de faire un bateau. J'avais, dès que j'ai été gosse, à l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première pêchoire.
Ah oui,
les planches, c'était pas compliqué. Mon père avait trouvé le moyen le plus simple du monde, ou pas mon père, mon grand-père, le plus simple du monde, c'est que on faisait débiter du bois pour faire des planches pour les travaux ou autres, d'aller acheter à la scierie trois planches, une bien large, deux moins larges, et puis les clouer. Alors j'avais fait une petite pêchoire, et j'ai eu à l'âge de 13 ou 14 ans une petite pêchoire, une pagaie double, un bout de pagaie, une petite planchette, et j'ai navigué sur la Dordogne. Au fur et à mesure, ça s'était perfectionné comme bateau, parce que quand il avait un certain nombre d'années, et puis après, eh bien, j'ai eu pendant ma jeunesse une pêchoire pour faire des déplacements rapides, pour remonter en courant, faire 7 ou 8 km de remontée et de revenir en pêchant à la mouche. Ce que je faisais, et quand je suis venu à Florac ici, 8 km pour revenir à Carenac, eh bien, quand j'étais jeune homme, pendant 18 mois ou 2 ans, pendant 2 ans, je mangeais au restaurant à midi et le soir, et quand je partais à Carenac, Eh bien, le soir, l'été, après 4 heures, je prenais mon périchoir, je m'alignais les 8 km de montée de Dordogne, et j'allais chez moi, chez mes parents. Oh, eh bien, le lendemain matin, on faisait un travail quelconque, je ne sais plus quoi, mais de toute façon, même en remontant la Dordogne, je reportais un plat de poisson. Et en revenant, l'été en pêchant à la mouche. Il y avait à faire, en temps ordinaire, sur la Dordogne, une belle pêche. Ce qu'on prenait, c'était, suivant la saison et le temps, c'était ou du chevesne, qu'on appelait le cabot ici, le chevesne, un museau un peu camard, ou bien la vandoise, qu'on appelait des assets ici. C'était des poissons blancs, de qualité ordinaire, très bons à manger, mais pas comparables à la truite, car la truite, on l'a gonflée beaucoup, c'est très bon, mais la truite d'un ruisseau à eau fraîche est très fine comme vous. Une truite d'une livre de la Dordogne n'est pas meilleure qu'un autre poisson. C'est un poisson un peu plus fin, elle n'a pas de petits fils, la viande c'est quand même bien, mais ça ne valait pas. Et alors, j'ai utilisé la Dordogne. Et j'ai utilisé la Dordogne pour le plaisir de la navigation. À plusieurs reprises, il m'était arrivé d'avoir quelqu'un qui faisait fabriquer un bateau à Argentat et d'aller chercher un bateau à Argentat pour l'amener à un type de Florac ou de par là, qui lui ne voulait pas se lancer sur la Dordogne, il allait le ramener. Et avec ma périchoire, je faisais quelques déplacements. Et même avec deux roues de vélo et un peu de cadre, je pouvais monter ma périchoire sur un cadre métallique, de petites roues de vélo de gauche, et amener ma périchoire, après avoir fait une descente de Dordogne, de la ramener par la route en la tirant à la main tout simplement.
Ah oui.
Ça marchait très bien. Et j'ai fait des parcours. Et j'ai fait un jour, parce que j'avais des amis de Libourne, moi, qui étaient des producteurs de vin de haute qualité. C'était la maison Kerr. Kerr et Brochet, deux associés qui étaient des gros producteurs de grands vins de Bordeaux. Cette famille venait à Calennac pendant que j'étais gauche et quand j'ai été jeune homme plus tard. Madame Kerr, deux garçons et une fille venaient passer un mois à l'hôtel à Calennac. Et les garçons, dès qu'ils ont été en âge de faire du vélo, partaient de Calennac, allaient dans toutes les communes de la région, vendre du vin, présenter du vin, etc. Et quand ça a été, non pas des gamins, mais des jeunes gens, j'ai eu l'occasion de les connaître, puis nous allions à la pêche ensemble, ils venaient pêcher avec moi, j'avais l'occasion, ils venaient chez nous, cultivateurs, à la saison d'été, on avait des fruits, il y avait des prunes, on avait des pêches, il y avait des premières pommes, il y avait des raisins. Ces jeunes venaient, ils venaient chercher le lait pour l'hôtel le soir, ils venaient le soir, on bavardait, et ils venaient manger des fruits. Et quand ils ont été des jeunes gens à l'aise pour faire ce qu'ils voulaient, et moi à peu près pareil, nous avons décidé un jour que nous allions descendre la Dordogne ensemble. Alors eux avaient amené des kayaks de chez eux, de Libourne, et moi je suis parti avec ma petite périchoire, j'ai foutu le camp à Libourne. Et tout simplement, mais c'était pas une affaire, parce que on sautait, et eux sautaient avec le kayak, mais moi je sautais avec ma périchoire. Et alors, j'ai eu le plaisir de faire ça. Et alors, c'était merveilleux, je me souviens. Un soir, nous avions navigué toute l'après-midi. On a eu un coup de grêle, on s'est mouillé. Et nous nous sommes trouvés à l'embouchure, au confluent de l'Isle et de la Dordogne. L'Isle vient de Périgueux. Nous étions là, il y avait plusieurs restaurants, mais eux connaissaient la... Nous sommes allés à un restaurant pour souper et pour coucher. Alors avec ces deux jeunes gens-là, eux avaient chacun une péchoire, un bateau seulement. Daniel, l'aîné, avait sa fiancée avec lui et sa barque. Son frère avait l'autre et une planche, mais moi j'avais ma péchoire pour remonter. Nous étions là. Et alors, nous sommes allés souper là-bas, on arrive, il y avait un bal, et on avait navigué, on a passé la soirée à danser, etc. C'était ça, et oui, et il y avait des liens extraordinaires. Ces gens-là, c'était des gens d'une situation financière aisée, rien de commun avec moi qui était l'instituteur, le petit paysan. Je suis allé chez eux, alors cette grande zone de vie de vignoble. Je me souviens, une grande maison, le toit est un béton carré, il y a trois étages, qui s'appelle Château Mazeyre. Et ce Château Mazeyre là-bas, il a fallu coucher parce que j'étais venu, parce que j'étais un ami des fils, et que, à l'arrivée là-bas, l'un des fils fêtait ses fiançailles avec la fiancée qu'il avait amenée. Et oui, avec ses fiers, et nous sommes allés là-bas. Et alors, c'était vous dire des liens que ça crée, parce que tout ça, c'est le phénomène d'un cours d'eau. Un cours d'eau est un élément de la société qui en est approche et qui a la chance, quand même, par nécessité ou par sympathie, de s'agglomérer d'un côté à l'autre. On se passait bien, la jeunesse se passait quelques soirs, tourner un soir de bal entre une commune d'un côté et la commune de l'autre, mais c'était pas très grave. Mais enfin, il y avait quelques fois quelques gifles qui passaient, mais enfin, c'était pas grave.